Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle. Donc Christine a écouté Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y avait plus de 30 millions de personnes, quasiment 31 millions de personnes hier soir à l'écoute du président de la République. Vous êtes satisfaite? Les écoles sont fermées, Christine?
Oui, tout à fait. Au niveau de cette décision, je suis d'accord que pour la fermeture des 4 semaines, mais pas au niveau de l'organisation pour le travail à distance des élèves. Ça va être très très compliqué d'une part de remettre en place le système au niveau des équipes de direction, puisqu'il y a un suivi avant, pendant et après. Il n'y a pas que le travail des enseignants. Mmh. Et d'autre part, il aurait mieux valu faire 2 semaines à suivre de travail et ensuite les 2 semaines de vacances. Là, il va y avoir 1 semaine de travail plus 2 semaines de démobilisation et les professeurs remobiliser des élèves à distance, ça va être très compliqué.
Oui, alors là, bon, franchement, je n'ai pas d'avis. Moi, j'ai interprété ça comme c'est pas facile de faire du distanciel, donc plus le temps est court, sur une période courte, on peut faire l'effort, mais après, on a 15 jours pour récupérer, puis on repart encore pour 8 jours. En plus, la première semaine, ce n'est pas 5 jours, c'est 4 jours, parce que lundi, c'est férié, lundi de Pâques. Donc, je ne sais pas. Ça ne me paraît pas essentiel, pour tout vous dire, Christine.
Si, ça peut être valable pour des lycéens, mais pour des primaires et puis des élèves de collège, ça va être très compliqué.
Bon, est-ce que vous pensez surtout que le 3 mai, tout le monde sera de retour à l'école?
Non, je ne pense pas.
C'est-à-dire que vous pensez que...
Mois, c'est déjà bien, mais non, ce n'est pas suffisant.
Pensez que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, toutes les mesures qui ont été annoncées depuis un an, à chaque fois, les délais ont été prolongés.
Oui, je pense qu'il y aurait fallu regrouper toutes les périodes de vacances d'un seul coup et de faire 6 semaines, rien que 2 semaines de plus, mais de confinement total. Mmh. Pas là, là, c'est quoi? Là, les gens vont bouger.
Comment ça, les gens vont bouger?
Parce que les gens, par exemple, vous, les Parisiens, les gens, on voit bien tout de suite qu'au niveau des trains, les gens vont prendre des réservations. Les plateformes de location sont déjà submergées de demandes.
Oui, mais enfin, vous savez, il y a 45% des gens qui ne partent pas en vacances chaque année. Donc, ça veut dire que tout le monde n'a pas une maison de campagne ou une maison secondaire. Et tout le monde n'a pas les moyens de bouger.
Tout à fait. Mais nous, on voit bien, là, ce matin, moi, quand je suis venue travailler, on est quand même à 300, 400 kilomètres de Paris, on voit bien de la circulation sur la 4 voies, qui n'est pas habituelle.
Vous habitez où ?
Angers.
Et à Angers, il y a plus de monde aujourd'hui sur la 4 voies que d'habitude ?
Oui, et puis je pense que ce soir, il y en aura encore davantage, bien sûr.
Vous pensez que donc c'est les Parisiens qui émigrent ? Ou immigrent.
Pas que les Parisiens, mais on est à 100 km du bord de mer, toute la côte atlantique, elle attire.
D'accord.
Vous connaissez la Bretagne attire, la côte atlantique attire. Ils annoncent un très beau temps pour le week-end. Donc il ferait un très, très grand froid, les gens bougeraient peut-être moins. Mais là, s'ils annoncent une belle météo, les gens vont partir.
Merci Christine de ce premier témoignage. Moi, j'ai écouté avec Greg Caranoni. J'ai écouté finalement Emmanuel Macron hier et j'ai retenu ce message-là.
Ça ira mieux.
Oh. Voilà ce que j'ai retenu. Mais bon, c'est la méthode Coué, hein, parce que vous pensez vraiment que le 15 mai, je disais tout à l'heure dans le journal de Christelle que je jouais ma chemise, que le 15 mai, je ne déjeunerais pas au restaurant.
Vous
au Paris ou pas?
Bah, moi, je pense que vous avez raison, mais
vous
jouez votre chemise, mais vous l'aurez lavée entre-temps pour le gagnant.
Mais pourquoi vous dites ça? Oui,
parce que comme vous la portez, non mais...
je vais surtout la garder puisque je vais pas la perdre, je pense.
Ah oui.
Je trouve ça regrettable, dommage, mais je n'imagine pas que dans l'état dans lequel on est, on soit ouvert le 15 mai. C'est ça qui me fait peur, et même le 15 juin. Donc je vous assure, on est un petit hamster. Vous connaissez le hamster dans la roue?
Oui,
le hamster. C'est nous.
C'est une belle image. Hein.
C'est nous. On est le hamster dans la roue. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent, on rappelle qu'entre 14h et 14h30, nous serons avec Laurent Gérard.
Ça va être le plus beau jour de votre vie, ça, Pascal.
Mais pourquoi vous dites ça?
Parce que l'imitation étant votre passion, je me dis que...
je pose la question.
Ça va être formidable parce que les auditeurs vont pouvoir parler avec lui, lui poser des questions.
Et vous
lui demander des imitations. Par exemple, quelle est l'imitation que vous préférez de Laurent Gérard? celle qui vous fait jubiler. Vous
ah, quand même, ah oui, vous allez.
Oui, mais vous voyez, parfois, mais oui, parce qu'il y a des imitations.
C'est la vôtre.
Non, il y a des imitations. Ah ouais, bon, moi j'aime bien quand il imite Jack Lang, par exemple, avec le Glaude. Le Glaude dans sa. Pas le Glaude d'ailleurs, ça aussi, le Glaude dans sa.
C'est Pochou.
Non, dans la taverne du vieux bouc.
Ah. Comment vous faites le Glaude d'ailleurs ?
Je ne sais pas.
D'accord, merci.
Tout à l'heure, on pourra se demander si c'est Pascal Praud qui imite ou Laurent Gérard. Tant Pascal est bon en imitation.
Oh, vous êtes arrêtez de me chambrer un peu sur mes imitations. Allez-y, Laurent.
Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu ? Les annonces sont-elles suffisantes ? Parents, comment avez-vous réagi en apprenant la fermeture des crèches, des écoles, collèges et lycées à partir de la semaine prochaine ? Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a justifié cette mesure ce matin sur RTL.
C'est la solution de raison, c'est-à-dire une solution d'équilibre. L'objectif pour moi, c'était d'abord une année scolaire pleinement réussie, si vous voulez, d'avoir été en classe déjà de septembre à fin mars, c'est essentiel et fondamental. Avec tout ce que nous avons fait, l'élève français au monde sera l'un de ceux qui aura eu l'année scolaire 2020-21 la moins anormale possible, la plus continue et si possible sans décrochage, ce qui, je le rappelle, est une exception dans le monde et dont à laquelle il faut tenir plus que tout.
Vous êtes parent, est-ce une galère qui recommence ? Comment allez-vous faire avec vos enfants ? Eh bien, on s'en sort bien, lance Thierry sur la page Facebook de l'émission. L'école à distance se fera la semaine prochaine. Si on enlève le lundi de Pâques et le mercredi, il ne reste pas grand-chose. Ensuite, ce sont les vacances, donc ça va. Ma fille va à la crèche, nous dit Gabriel. Impossible pour mon mari et moi de faire du télétravail. On va devoir solliciter les grands-parents. Et c'est un peu brutal quand même, réagit Laurence. On a très peu de temps au final pour s'organiser.
Alors j'ai dit que Laurent Gérard serait avec nous et Jade, également tellement merveilleux Jade.
Tous mes amis sont là.
Tous mes amis sont là, Jade sera là. Et évidemment, vous pourrez échanger également avec elle. Je précise que si vous êtes commerçant dans une zone peu touchée, et que vous êtes en colère, appelez-nous, parce que j'imagine que ces restrictions, ces mesures, ces fermetures, vous les comprenez, vous ne les comprenez pas au fond, vous savez bien la motivation du gouvernement, mais vous ne les comprenez pas. Nous sommes avec Élodie qui habite Douai, bonjour, vous êtes professeur dans le primaire.
Oui, bonjour Pascal, tout à fait.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est dit et fait hier ?
Alors, satisfait. Ce ne sera pas vraiment le terme, mais très sincèrement, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et j'étais très stressée, j'avais vraiment peur qu'on nous annonce un confinement beaucoup plus long et une fermeture des écoles beaucoup plus long. Parce que comme je pense n'importe quel Français, qu'il soit parent ou qu'il soit enseignant, on a tous des mauvais souvenirs de l'année dernière. Ça a été difficile, on a des stigmates et j'avais vraiment très peur. Et finalement, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Moi, je relativise, je me dis, voilà, on a 3 jours, parce que moi, je travaille dans le primaire. Donc la semaine prochaine, on a 3 jours de travail à distance, ensuite ce sera les vacances. Bon, logiquement, on est censé reprendre après, on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis, je comprends la panique, parce qu'on a tous des mauvais souvenirs, mais je relativise, il faut se dire, c'est 3 jours. Ensuite, ce sera les vacances. Voilà.
Mais je suis d'accord avec vous, mais on s'est quand même habitué. C'est formidable ce que vous venez de dire, on s'attendait à pire. On a une vie aujourd'hui sans école, sans commerçant, sans restaurant, sans café, sans cinéma, sans théâtre, sans salle de sport, sans boîte de nuit, sans esthéticienne, etc., etc. Ça fait un an que ça dure. Et vous, votre témoignage, je le comprends parce qu'au fond, j'ai eu la même sensation que vous hier. J'avais tellement peur à un confinement strict qu'à la fin de l'intervention, je pouvais être heureux de ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Mais c'est terrible.
C'est terrible,
Élodie. On en est là.
Enfin, moi, on s'accroche effectivement au vaccin. Enfin, moi, personnellement, je m'accroche à ça. Je me dis, bon, c'est une fois qu'on sera vraiment tous ou quasiment tous vaccinés que ça ira mieux. Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Donc, on voit bien que le virus a vraiment pris de la place. Toutes les régions sont touchées, c'est affreux. On savait qu'il fallait faire quelque chose. Mais moi, je me dis, la panique, c'est les mauvais souvenirs. Mais en même temps, c'est pas comme l'année dernière. On est préparés. Nous, les enseignants, on s'est créé des ressources. On a développé de nouvelles conséquences. Là, on sait exactement ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et pour les parents, je pense qu'eux aussi savent maintenant à quoi s'attendre. Nous, personnellement, à mon école, on les a préparés. Donc ils savent très bien utiliser les outils. Ils sont prêts. Moi, je me dis, allez, il faut être serein. C'est 3 jours. Ça va bien se passer.
Voilà. Et alors, le vaccin, j'espère qu'il n'y aura pas un variant qui va percuter ce vaccin et être plus fort que ce vaccin. J'observe qu'il y a 200 millions d'Américains vaccinés en 100 jours de présidence Biden. 200 millions. 90% des adultes qui le souhaitent le seront avant le 19 avril. Vous vous rendez compte ?
Et nous, ah oui, non, mais complètement. L'Angleterre, ils sont en train de tout rouvrir parce que la vaccination, elle est quasiment finie. Et nous, on a vraiment des gros progrès à faire. Et puis bon, alors côté enseignants, nous, les blagues, les enseignants seront vaccinés en mars. Et puis arrivé au mois de mars, les enseignants seront vaccinés fin avril. Alors on se demande si ce ne sera pas 2023, hein, clairement. On n'y croit plus, on verra bien.
Ben, c'est le problème de la parole présidentielle et en général la parole de l'exécutif. Et on l'a dit, c'est-à-dire que le président de la République, le 1er mars, il disait encore 6 semaines à tenir. Et puis hier, il nous a dit encore 6 semaines à tenir. Et ça, c'est à quelques jours d'intervalle. Merci, Élodie.
Psychologiquement, c'est dur. Voilà.
Ben, je suis d'accord avec vous. Et c'est dur parce que, pour ceux notamment qui ne travaillent pas, et notamment les commerçants, Guillaume est avec nous, par exemple, en Indre-et-Loire. Il est président des commerçants. Donc, vous êtes dans la ville de Bourgueil.
Bonjour, Pascal.
Bonjour, Guillaume. Quels sont... vos premières réactions et quel est le moral des gens que vous avez rencontrés ce matin ?
Alors, je suis triste et désespéré et ce matin, j'ai fait le tour de tous les commerçants de Bourgueil. On ne comprend pas, on comprend absolument pas pourquoi la photographe de Bourgueil doit fermer alors qu'il n'y a jamais personne dans son magasin, pourquoi la marchande de vêtements doit fermer, pourquoi la fleuriste qui avait dû fermer en novembre, cette fois elle ferme pas, et pendant ce temps-là, le métro parisien continue à circuler, donc c'est absolument délirant. Certes, nous avons des aides. J'ai appelé ma députée ce matin pour râler et elle m'a dit « Oui, mais vous avez des aides. » Oui, nous avons des aides, mais le moral, on l'a plus.
Non, mais c'est... Dans une ville de... Vous connaissez l'incidence, par exemple, de l'Indre-et-Loire et de la ville de Bourgueil en particulier ?
Oui, on est à peu près dans la moyenne nationale, ni plus ni moins. Ce qui est sûr, c'est que autour de moi, je connais des gens qui ont été malades et qui aujourd'hui sont en pleine forme. Et les seules personnes décédées que je puisse connaître autour de moi, c'est des gens qui malheureusement étaient en âge de mourir. Mais on n'a pas l'impression que ce soit la peste noire. Et donc, on comprend pas comment on peut ruiner notre économie, détruire nos entreprises pour un virus qui, pour l'instant, ne représente pas une hécatombe.
L'Indre-et-Loire, 314 de taux d'incidence, 61% de tension hospitalière, 7,5% de taux de positivité. Vous vous rendez compte, 11% de la population serait vaccinée. C'est vrai que ça n'a pas de sens pour l'Indre-et-Loire. Je ne peux pas dire autre chose. De fermer le photographe ou le magasin de vêtements, on ne peut être que d'accord avec ce que vous venez de dire.
Alors je retiens quand même un point positif parce que j'essaie de retrouver de l'espoir et j'ai écouté attentivement le président de la République. Moi, depuis un an, j'ai l'impression à propos des masques, des tests, des vaccins, qu'on est géré par la 7e compagnie. Et quand hier il nous a dit qu'il allait prendre le virus en tenaille, j'ai pensé évidemment tout de suite au chef Chaudard dans la forêt de Machecoul qui attendait le repli des Allemands pour les prendre en tenaille. Donc au moins il m'a fait sourire. Dans le désespoir dans lequel je suis, je remercie le président de la République de m'avoir amené ce petit moment de bonheur en me faisant rire avec son évocation de la tenaille, parce que vraiment c'est des clowns. Moi j'ai partout autour de moi des personnes âgées qui cherchent à se faire vacciner et qui n'y arrivent pas. J'ai une belle-sœur qui est pharmacienne qui a pas de dose et on nous dit les vétérinaires vont pouvoir vacciner, mais c'est pas un problème de personne pour tenir la seringue, c'est un problème de dose. Donc tout est ridicule, cette gestion est grotesque.
Et ce matin, pour nous faire sourire également, dans le surf de Cyprien Sini, il rappelait le passage d'Emmanuel Macron hier, où il avait visiblement entendu le président que certains souhaitaient ou militaient pour l'attestation. Et effectivement, Cyprien s'étonnait parce que lui, comme moi, n'a jamais entendu quelqu'un militer pour l'attestation, est ce que disait hier.
Alors, je ne connais pas moi non plus de gens qui veulent absolument être obligés de se signer un papier pour s'autoriser à acheter du pain. J'avoue qu'on a vraiment du mal à comprendre. Moi, je milite en revanche depuis un an, mais vainement, pour l'activation du couple maire-préfet qui pourrait regarder au cas par cas, selon la taille des villes, selon la taille des magasins, ceux qu'on laisse ouverts et ceux qu'on ferme. Et ce couple maire-préfet dont l'exécutif nous a parlé par moments, visiblement, à nouveau, il a disparu.
Bah merci Guillaume, j'ai une petite musique pour vous, même si vos propos étaient particulièrement rudes sur l'exécutif, mais cette musique peut vous faire sourire peut-être. La musique de la 7e compagnie, puisque vous compariez l'exécutif à la 7e compagnie. Il y a longtemps qu'il n'est pas passé à la télévision, généralement c'est tous les gens.
Le chef veut dire Chaudard.
Bon bah merci Guillaume, 13h18.
Merci Pascal.
Journée particulière, on est le 1er avril. La tradition des 1er avril n'existe plus. Hein. On ne fait plus de poissons, on ne fait plus de blagues. Quand j'étais enfant, par exemple, j'écoutais RTL le matin et il y avait toujours les infos une soucoupe volante est arrivée dans le bois de Boulogne ou que sais-je. Etc. Aujourd'hui, c'est plus à la mode, cela.
L'émission dure encore une heure, vous savez. Il peut y avoir des surprises.
Oui, mais il n'y a plus ces blagues. En revanche, c'est un jour particulier, ce qui fait que nous accueillerons l'ami Laurent Gérard et Jade. Tellement merveilleux, Jade. Tous mes amis sont là. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À 13h20, Laurent Tessier.
Le monde d'après, si pour quand, retrouverons-nous une vie un peu plus normale dans les semaines à venir? Emmanuel Macron a donné hier soir un début de calendrier.
Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants.
Rouvrir le pays à partir de la mi-mai, faut-il croire Emmanuel Macron? Ah bah pas du tout, répond Fred sur nos réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. C'est bon, on n'est pas dupes. Arrêtez de vous plaindre, réagit à l'instant Véronique. On veut tous un calendrier, on veut se projeter. Là, on a un cap, donc ça fait du bien et certains ne sont jamais contents. Ils n'auraient rien dit, vous auriez été les premiers à vous énerver.
Là, c'est au futur simple qu'il s'est exprimé. C'est à l'indicatif. Donc c'est pas au conditionnel. Moi je veux bien qu'on réécoute ce que vous venez de dire. C'est un engagement et il ne le soumet à aucune condition. On le réécoute.
Allons-y.
Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants.
Bon, donc c'est clair, hein, nous autoriserons clair, sous conditions, mais ce n'est pas des conditions, ça sera des conditions évidemment de sanitaires, mais dès la mi-mai, voilà. Alors, est-ce qu'il tiendra parole?
On ne le réécouterait pas une troisième fois?
Moi, je vais le réécouter tous les jours.
Pour le plaisir.
Tous les jours, tiens, vous le mettez en archive, M. Greg Caranoni. Loïc est là. Bonjour Loïc, qui habite dans les Vosges.
Bonjour Pascal.
Bonjour. Et tout à l'heure, on sera avec Laurent Gérard qui a immortalisé ce département des Vosges, à Saint-Dié-les-Vosges.
Ah oui, vous entendez tout à l'heure sur le duo de la taverne du Vieux Bouc.
Mais je voudrais
qu'on... Ça nous fait bien rire aussi chez nous.
C'est génial, la taverne du Vieux Bouc, avec le duo de ses amis. Donc on passera peut-être un extrait tout à l'heure avec Greg Caranoni de cela. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur hier soir?
Bon, sur hier soir, c'est pas particulièrement sur hier soir, c'est sur la situation en général. Nous, on habite dans les Vosges, on est quand même très très loin de Paris, on a la campagne. Et on se rend compte d'un truc, c'est qu'il y a un mois, quand les Hauts-de-France ont été confinés, et notamment la Marseille, je ne sais plus, il y a 15 jours, donc Paris n'y a pas été, alors que vous êtes... les chiffres sont pires à Paris que dans les deux régions d'avant. Et nous, on se dit, si Paris avait été confiné en même temps que les autres régions qui étaient dans la même situation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Nous, on est loin d'être aussi alarmants. Les chiffres sont moins alarmants dans les Vosges.
300 de taux d'incidence, ce qui est quand même plus élevé, puisque c'est 50 le minimum. Il y a 263% de tension hospitalière. Alors ça, c'est quand même énorme. 263%.
La région parisienne, vous êtes à combien?
Ah ben on n'est pas à 263% de tension hospitalière.
Ah bah oui, non mais là c'est différent. La tension hospitalière, c'est en fonction des effectifs.
Bah oui.
Alors quand vous prenez les effectifs, à Épinal, il y a 9 lits de réa. 9 lits de réa, c'est rien quoi.
Non mais bien, j'entends bien.
Le problème, c'est comme en décembre, quand on n'a pas fermé les frontières et qu'on a laissé le variant anglais rentrer en France. En fait, on prend que des mesurettes depuis le début. Là aujourd'hui, on nous dit on va confiner la France, mais on laisse quand même là pour le week-end Pascal l'opportunité aux gens d'aller se répartir
pour s'organiser. Il faut bien un petit mois quand même.
C'est dangereux. Mais si réellement c'est dangereux, on bloque les régions, les Parisiens, les Parisiens. Après, j'ai rien contre les Parisiens, mais je veux dire, on empêche les gens de bouger et terminé quoi.
Depuis
le début.
Donc vous, par exemple, en politique alternative, il eût fallu empêcher hier soir tous les Français de bouger de l'endroit où ils étaient.
Ah bah bien sûr.
Bon.
En fait, si vous voulez, c'est que si on analyse le truc, on se dit on laisse les gens bouger, c'est que c'est pas si dangereux que ça. Si on laisse faire n'importe quoi depuis le début, moi je me demande même le bien fondé. On se dit est-ce que ça arrange pas politiquement, est-ce que ça arrange pas tout le monde qu'on ait un virus là puis qu'on mette un peu le.
Mais quel serait l'intérêt pour Emmanuel Macron par exemple?
Pour lui, personnellement, rien. Mais
alors, ça serait l'intérêt de qui?
Après, ça peut aller très loin. On bloque tout. Regardez voir la Chine qui est en train d'émerger, qui est en train de tout bouffer. Mm. On leur a quand même tiré une balle dans le pied avec l'histoire de virus. On rééquilibre les choses. Ça permet de venir.
C'est l'intérêt de qui, moi je, pourquoi
un
pas
intérêt général, un intérêt général.
On entend tout le temps dire
une bonne guerre, ça va rétablir les choses. Là, on n'a pas une guerre physiquement, mais on a une guerre économique.
Allez, non, comme vous y allez.
On a les mêmes effets, quoi.
Pas exactement les mêmes effets.
Regardez voir, on nous dit depuis le début, ça nous coûte un fric monstre et compagnie. Mais moi, je me pose même la question. Vous dites, si réellement ça nous coûtait si cher, on aurait acheté les vaccins au vrai prix. Et puis on vaccinait tout le monde, et puis on faisait comme Israël, on était tous au boulot, puis on n'en parle plus, quoi.
Israël, c'est un pays de 8 millions, c'est 8 millions d'habitants,
Anglais,
c'est plus facile.
Les Anglais ont
acheté leur vaccin, quoi, ils l'ont fabriqué. Nous, on a pas. C'est leur vaccin. Nous, on n'a pas notre vaccin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans cette crise, on est la première puissance, une des grandes puissances à ne pas avoir son vaccin. Les États-Unis l'ont, l'URSS l'ont, la Chine l'a, l'Angleterre l'a. On n'est même pas fichu d'avoir fabriqué un vaccin, le pays de Pasteur.
On arrive à acheter des masques à l'autre bout de la planète,
oui.
On n'est pas foutu d'acheter un vaccin. C'est quand même alarmant, quoi.
Mais je confirme que cette situation, pour les Français que nous sommes, cette situation que nous vivons depuis un an montre effectivement le combien nous sommes devenus un petit pays. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose.
On est devenu un pays de seconde zone.
Et c'est un des problèmes français. C'est-à-dire que
si on prenait les choses en main, on pourrait quand même inverser la tendance et reprendre notre.
Oui, mais ça veut dire quoi, reprendre les choses en main? Vous voulez y aller, Loïc? Vous voulez marcher sur l'Elysée? Vous voulez faire campagne électorale?
Non, mais regardez voir. Quand on voit aujourd'hui, là, économiquement, on va se mettre dans une mer de monstres. Alors que si on vaccinait les gens, on n'en serait pas là, quoi.
Mais on n'a pas de vaccin. Bon, comment voulez-vous les vacciner? On n'en a pas.
Les Britanniques arrivent à les acheter.
Ah oui, mais nous, on.
Ils les achètent à qui? Ils les achètent, les vaccins. Mmh. Les Américains, ils en achètent, des vaccins.
Mais nous, on passe par l'Europe.
Nous, en fait, on laisse tout partir. Moderna, c'est un labo français. Il est parti aux États-Unis. On a des labos. Je sais pas.
Moi, j'entends ce que vous dites et vous exprimez un point de vue de bon sens. Évidemment que vous n'êtes pas au cœur du raisonnement administratif et politique, mais vous exprimez un raisonnement de bon sens en disant qu'est-ce qui ne va plus dans ce pays.
Mais voilà. La situation de laquelle on vit, c'est au regard de notre société. Quand on va voter pour un président, on vote pour celui que tout le monde aime. Si dans une entreprise, vous demandez à voter pour le directeur, c'est pas le directeur en place qui va sortir, c'est le syndicaliste ou le mec qui est copain avec tout le monde. Et là, on devrait diriger notre pays comme on dirige une société, en faisant du bon sens et puis aller là où il faut aller, quoi.
Loïc, merci, vous avez gagné un cadeau.
Absolument, Loïc. Et Pâques approche. Et du coup, vous savez ce qui se passe cette semaine?
Tous les auditeurs qui passent à l'antenne remportent un assortiment d'1,5 kg de chocolat Jeff de Bruges, composé d'un coffret de lapin en guimauve, enrobé de chocolat, de petits œufs garnis et de chocolat Jeff de Bruges spécial Pâques. De quoi faire plaisir et vous régaler.
Ça vous fait plaisir, Loïc?
Ah ouais, ça me fait très plaisir.
Bon, vous avez gagné du chocolat.
J'ai fait le chocolat, surtout ma femme.
Bah écoutez, là, et puis c'est combien, 1,5 kg?
1,5 kg, ouais, c'est énorme.
Mais ça rigole pas, 1,5 kg de chocolat.
On est sur RTL, évidemment, on ne rigole pas.
Merci beaucoup, Loïc. Une pause. On est à une demi-heure de Laurent Gérard. Et Jade, tellement merveilleux. Tous mes amis sont là. Jade sera là également. À tout à l'heure.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Ce sont des confidences rares. Kylian Mbappé s'est livré hier soir à Philippe Sanfourche après la victoire des Bleus contre la Bosnie 1-0. L'attaquant du Paris Saint-Germain trouve qu'il est trop scruté, trop critiqué par les observateurs.
Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sûr qu'au bout d'un moment, ça fatigue. Mais c'est différent que pour les joueurs qui jouent à l'étranger. Et ils reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, donc bien sûr que ça parle beaucoup plus. Voilà, c'est un contexte différent, mais je savais en signant à Paris que j'allais être dans ce contexte-là, mais on verra par la suite.
Comprenez-vous Kylian Mbappé? On lui en demande trop, écrit Charles sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, c'est un jeune joueur, peut-être le plus talentueux de sa génération, laissons-le tranquille. Ah, ça sent le départ quand on l'écoute, nous dit Marc. J'ai comme l'impression qu'il en a marre. Après, un joueur doit accepter les remarques, lance Joël, quand il n'est pas au niveau, il faut le dire. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10. Et nous sommes le 1er avril. Lançons le concours de la meilleure blague au standard humoriste du jour. Appelez-nous dès maintenant. Laurent Gérard et Jade seront aussi avec nous à partir de 14h. Venez poser toutes vos questions.
Ami, répondez la question au 3210.
3210, 3210 sur votre téléphone.
Et on pourra réagir sur Kylian Mbappé, mais je trouve que quant à la chance d'être Mbappé, qui est donc né en 1998, qui a 23 ans, qui a la carrière qu'il a, qui a tout pour lui, qui est jeune, qui a une réussite exceptionnelle, c'est vrai que je suis un peu surpris.
Par cette lassitude ?
Oui, parce que tu devrais remercier le ciel. Bien sûr qu'il y a... Il y a quelques petits inconvénients à la gloire. Ce sont les critiques. Et alors, le nombre de gens qui aimeraient être à la place d'Mbappé. Alors, s'il était devant
peut-être
moi, il dirait oui, vous avez raison.
Avec Kylian Mbappé.
Oui. S'il était devant moi, il me dirait oui, vous avez raison. Bien sûr, vous avez raison. Mais ces pauvres petites filles riches, vous vous souvenez de cette chanson, pauvres petites filles riches de Claude François. Voilà, il a cette chance-là dans la vie de traverser la vie en première classe et même plus que cela.
Je ne suis qu'un
homme.
Donc,
il peut penser tout ça. Je trouve dommage de le dire. Me semble-t-il. Vous voyez, Platini était pareil, et Platini ne se plaignait pas dans les années 70 ou 80. Mais peu importe, vous pourrez donner votre avis.
32-10.
Thierry est avec nous. Thierry qui habite la Vendée. Thierry.
Bonjour Pascal. Ah, oui,
la Vendée.
La Vendée.
Et vous allez avoir plein de Parisiens.
C'est formidable.
Mais vous devriez être content, les Parisiens.
Comme en mars, oui, on est super content.
Vous êtes où en Vendée ?
Je suis à Saint-Florent-des-Bois, en dessous de, sur les rives de Lyon.
De Lyon ?
Oui, rive de Lyon. Lyon, la rivière.
Bien sûr. Je me doute que c'est la rivière, mais je ne la connais pas.
Oui, c'est pas la ville.
Bon, et donc vous êtes loin de l'océan quand même, à Saint-Florent-des-Bois ?
Non, on est à 12 kilomètres.
Et quelle est la ville la plus proche de l'océan, la plage la plus proche ?
Ben, on va à la Faute-sur-Mer.
D'accord.
À la Tranche.
À la Tranche, bien sûr.
Ben voilà.
Bon, quelles sont vos remarques et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ?
Depuis hier soir, comme par hasard, la migration a commencé. Depuis ce matin, c'est encore pire. Des maisons qu'ils ont fermées depuis le mois d'octobre, qu'on n'a vu personne pendant tout l'hiver, sont en train d'ouvrir comme des petits champignons. Les papillons sont de retour. Quand on leur dit bonjour, et ils disent oui, bah, on est aussi là parce qu'on veut profiter du vaccin. Nous-mêmes, on n'arrive même pas. Mon mari est atteint de il a une comorbidité. Lui-même essaye depuis lundi d'avoir un rendez-vous. Il a une ordonnance. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir se faire vacciner. Et tout le monde vient ici parce qu'on a du Pfizer. Donc je me demande s'ils viennent pour se reposer, pour repartir, pour faire un test, pour faire leur vaccin, pour faire je ne sais pas quoi. Mais ça devient complètement aberrant. C'est comme en mars de l'année passée. Les gens arrivent ici et hop là dit, c'est la fête au village. Et eux font pas attention. J'en ai pas un qui a mis un masque. Ils savent même pas si
les Parisiens mettent pas de masque.
Ben, ils étaient en face de moi, la campagne, je peux vous dire qu'ils mettent pas de masque.
Ah
ben, attendez, je vais à ma boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres est malheureusement sur le chemin d'un autre voisin. On est à 500 mètres, les maisons. Donc, moi, je suis en bordure de forêt au bord d'un lac. Donc, vraiment isolé de chez isolé. Je vais prendre mon courrier ce matin. Le voisin de la maison à droite, parce que la poste simplifie la vie, on préfère mettre toutes les boîtes aux lettres dans un même chemin. Comme ça, le facteur fait un seul travail et il n'a pas besoin d'aller de maison en maison. Donc, je vais à ma boîte aux lettres. Ils viennent me demander comment ça va. Ben non, moi je suis surpris, je les ai vus arriver hier soir, ils sont pas venus me demander comment j'allais. Mais comme par hasard aujourd'hui, ils me sautent à la gorge et ils sont sans masque, sans rien du tout. Et ils savent même pas si moi je suis malade ou pas. On a quand même 7 à 11 nouveaux cas pour le mois de mars au Rive de Lyon, dans la section du Rive de Lyon. Donc c'est quand même pas rien non plus. Donc on commence à se demander si c'est vraiment du confinement, parce que le confinement ça doit être où ? À 100%.
Mais c'est pas du confinement là, hein.
Oui,
puisque faut être dehors. Donc il faut être dehors parce qu'on se contamine moins dehors.
Eh ben ça va être formidable là.
C'est la logique du gouvernement. Mais ce qui vous ennuie, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi je trouve qu'il y a un anti-parisianisme qui a évidemment toujours existé sans doute. Mais j'ai l'impression qu'il s'est accéléré ces dernières années, notamment au moment des gilets jaunes. Et ce que vous dites là, il y a une forme d'expression d'anti-parisianisme. Je n'ai pas dit primaire.
Non, pas à ce point-là.
Mais ils ont le droit de venir quand même. Ils ont le droit de bouger, les Parisiens.
Bien entendu qu'ils ont le droit de venir. Mais
c'est comme si vous, quand vous veniez à Paris, visitez Paris.
Le moins que possible, parce que c'est pas une ville que j'aime vraiment. Donc,
vous faites ce que vous voulez. mais il y a beaucoup de Parisiens, de Français qui aiment visiter Paris. Donc si les Parisiens, à chaque fois qu'ils voyaient des gens de région arriver à Paris...
Oh, ils le font quand même sentir quand ça les agace un petit peu, qu'on n'est pas vraiment de Paris. Hein.
Ah bon?
Vous savez, je suis dans l'événementiel, je suis dans le mannequinat, et je vais vous dire honnêtement qu'on le ressent quand même quand on arrive et qu'on est des petits provinciaux, on n'est jamais à la hauteur de ce qui se fait à Paris.
Ah bon?
Et pourtant, vous aurez Laurent Gérard qui vient vers vous, et moi j'étais sur un yacht avec lui. Donc on rencontre quand même pas mal de monde, même si on vient de la province.
Bon, bah écoutez, merci Thierry. Je comprends, hein, on peut toujours tout comprendre, mais les Parisiens aussi, d'abord ils ont le droit d'avoir des maisons secondaires. Il ne faut pas stigmatiser les gens qui ont des maisons secondaires. J'imagine que c'est des maisons qu'ils ont eues parfois en travaillant, hein, et parce qu'ils ont cette chance, effectivement, de pouvoir investir, et ça fait marcher aussi localement les entrepreneurs et la région de Vendée, hein, monsieur Thierry.
Et qui mettent leur masque.
Oui, ah bah oui, là,
vous avez raison. Le minimum, les gestes barrières. Ils arrivent, ils sont à la campagne, ils entendent les petits oiseaux, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien ici.
Bon, en tout cas, je vais vous dire quelque chose. Et ça va être un thème. Parce qu'il y a eu un sondage hier soir qui est sorti. C'est LCI d'ailleurs qui a donné ce sondage, Harris Interactive. 75% des gens étaient pour la limitation des déplacements entre les régions. 71% étaient pour l'extension à tout le pays des mesures de restriction, etc. Il y avait une très large majorité de Français qui ont dit oui. Mais là, depuis 13 heures, je ne les entends pas. Donc, ils sont où, les Français qui sont d'accord? Et c'est d'ailleurs un des thèmes récurrents depuis je ne sais combien de mois. La courbe d'Emmanuel Macron dans les sondages est incroyablement haute. Et tous les gens que j'ai au téléphone... explique qui pique-pendre sur la politique du gouvernement et parfois sur Emmanuel Macron.
Je vous dis honnêtement que je suis très content si c'était un confinement total, qu'on n'en parle plus, que ça termine.
Ah oui, vous êtes pour le confinement total, vous ?
Oui, tout à fait. Et puis je préférerais que les systèmes... Alors, il veut faire des tonnes de vaccinodromes et tout ce qui s'ensuit, mais qu'ils mettent déjà des gens au téléphone pour répondre aux personnes qui appellent pour se faire vacciner. Comme ça, les vaccins ne sont pas perdus non plus.
Bon, où sont ceux qui ne sont contents? Voilà, c'est ça que je veux vous dire.
Mais oui, on peut se demander, ça, vous avez raison.
Où sont ceux? Et non pas où ce sont. Où sont ceux qui sont contents? Où sont-ils? Je voudrais qu'ils nous appellent. Il n'y a pas de gens contents au téléphone.
Vous êtes
quand même extraordinaire. Les sondages expliquent qu'Emmanuel Macron, tout le monde est satisfait depuis hier soir. Il n'y a pas une personne qui appelle pour être contente. On a des râleurs à RTL ?
Ben là, j'en ai un en face de moi.
Hein. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Julien est avec nous, qui est chef d'entreprise dans l'horlogerie. Bonjour Julien.
Bonjour Pascal.
Vous habitez où Julien ?
À Besançon.
Quelles sont vos réflexions après l'intervention d'Emmanuel Macron ?
La réflexion, c'est déjà d'arriver ce matin... de voir avec mon père, puisqu'on est en co-gérance de l'entreprise, les dispositions à prendre, puisqu'on travaille dans le domaine de l'horlogerie. Donc à partir de samedi soir, l'ensemble de nos collaborateurs devront baisser rideau à nouveau. Donc la première des choses, la première étape déjà ce matin, ça a été de savoir la stratégie à employer de nouveau, c'est-à-dire le chômage partiel pour nos employés, les dispositifs qui vont essayer de permettre de s'en sortir encore une fois, pendant un mois voire plus. Donc, moi, ce qui me met le plus en colère, c'est que encore une fois, et ça se ressent de plus en plus au fur et à mesure des restrictions qu'ils donnent, c'est ce mot non essentiel, essentiel, non essentiel, qui revient. Monsieur Macron et son gouvernement a insisté sur un point, il faut sortir apparemment maintenant pour ne pas être... vers les virus, mais on va quand même autoriser les magasins de jeux vidéo à ouvrir. Donc ça veut dire qu'on a le droit de sortir, mais on pourra quand même jouer aux jeux vidéo à l'intérieur. Par contre, un bijoutier qui a le droit de faire rentrer une seule personne à la fois, qui respecte des gestes barrières, bah lui, il va être fermé. C'est pas qu'un simple bijoutier, c'est ce que je disais ce matin à plusieurs collaborateurs. C'est pas des simples bijoutiers, c'est derrière des entrepreneurs qui vont devoir fermer. Et puis c'est moi derrière qui mets 8 personnes au chômage à partir de lundi. Donc les conséquences, elles sont à chaque fois un peu plus importantes. Et l'écart qui se creuse, alors vous parliez avec l'auditeur précédent des écarts entre parisiens ou autres, Les Parisiens, ils nous font travailler énormément, donc on est très contents quand c'est ouvert chez eux. Mais les écarts se créent entre les différents niveaux et ça commence à être très pesant, quoi. Sincèrement, pour nous, chefs d'entreprise, pour les familles qui derrière, vous savez, depuis janvier, toutes les semaines, il y a eu déjà le coup des 18 heures qui nous avait fait mal parce que les gens se rendent plutôt en bijouterie dans ces horaires-là après le travail.
En fait, vous avez une horlogerie.
Nous, on est un atelier d'horlogerie de réparation.
D'accord, c'est une boutique.
Non, c'est un atelier. Pas de boutique, c'est un atelier de réparation.
D'accord, l'atelier...
C'est principalement du service après-vente.
Mais les gens peuvent entrer dans cet atelier. C'est pas simplement sur...
Oui, il y a des particuliers qui peuvent venir, mais on fait beaucoup de sous-traitance, si vous voulez. Avec,
d'accord, mais alors pourquoi vous êtes fermé ?
Nous, on n'est pas fermé.
Ah, vous n'êtes pas fermé ? Mais pourquoi vous mettez les salariés au chômage partiel, alors ?
Ben parce que j'ai pas de travail qui va arriver. Si vous voulez, moi, mon activité principale, c'est le service après-vente.
Oui.
Et le service après-vente, c'est les personnes qui viennent en bijouterie déposer leur montre.
Oui.
Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui vont les déposer. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi, les 18h, ils m'ont déjà fait très mal, puisque, en principe, les gens vont dans ces horaires-là. Donc déjà, depuis janvier, les gens...
Oui, je comprends. Combien vous avez d'employés ?
On est 10 employés.
Et vous allez en mettre combien au chômage partiel ?
Eh bien, les 10. Puisque mon père et moi serons les deux là. Je ne peux pas aujourd'hui...
Donc vous allez quand même travailler parce qu'il y a quelques clients qui restent ?
Oui, alors il y a toujours... il y a déjà... quand on est chef d'entreprise, on veut toujours être dans le navire, donc on est toujours présent, mais il y a toujours un peu de click and collect, de choses comme ça, donc on arrive toujours un peu à recevoir des choses, mais en règle générale, on sent vraiment... de toute façon, on sentira une baisse énorme. Mais il faut toujours être présent parce qu'il peut toujours y avoir des réparations ou quoi qui peuvent arriver. Les bijoutiers vont quand même essayer de contacter les clients pour des devis qui sont en attente de réponse, etc. Et il y a un minimum d'activité qui va se faire, mais pas assez pour avoir les gens chez nous.
Le
calcul, il est simple. On a des aides pour le chômage partiel, heureusement d'ailleurs, et qu'on en a. Mais si vous faites venir vos employés, ça vous coûte plus cher que de les avoir avec vous, quand vous ne recevez pas de travail.
Je comprends. Et Julien, j'imagine que beaucoup de chefs d'entreprise, de petites entreprises, puisque vous avez une dizaine de personnes, se reconnaissent dans votre témoignage. Et c'est évidemment terrible. Merci beaucoup, Julien. Et bon courage à vous, vraiment, bon courage à vous.
Si, et bon courage aussi aux collaborateurs qui ferment samedi soir.
Merci. Est-ce que nous passons une pause ? Est-ce que nous faisons une pause ou est-ce que nous...
Faisons une petite pause. Oui.
Allez, faisons une petite pause. Et puis je vous rappelle qu'on pourra peut-être écouter en teasing Laurent Gérard. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Avec plaisir, juste après la pause.
Le Diode.
Absolument.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Jade nous a rejoint dans ce bureau, j'allais dire.
Ça me fait
dans
drôle d'être ici à cette heure-là.
Mais ça me fait tellement plaisir que vous soyez là. On va être avec tout à l'heure Laurent Gérard. Mais quand je vous croise dans les couloirs tous les jours, j'ai toujours Jade, tellement merveilleux, tellement formidable. Jade est là.
Ça fait 10 ans que vous me faites
mais
ça.
Mais oui, parce que j'adore quand il imite Jean-Claude Brialy. Je regrette qu'il ne l'imite plus. Je lui ai dit l'autre jour, parce que c'est des imitations qui font jubiler.
C'est vrai. Il pourra vous en faire une tout à l'heure.
Et alors, il y avait une autre imitation où on jubilait, et je voulais vous proposer cet extrait, c'est le Diode.
Outre le fait d'être borgne, bossu, boiteux et baveux, le Diode, pardonnez-moi de le rappeler, est sourd et muet. Alors, comment pouvait-il vous entendre et comment pouvait-il désigner la personne à qui vous donnez la part de Tofaille ?
Pas fou.
On peut se le demander.
J'ai la réponse ordinaire. C'est en langue des signes que je communique avec le Diode. Mais là, comme il ne me voyait pas, c'est en morse que nous avons communiqué tous les deux. Le prénom de chaque personne présente pour tirer les rois. L'homme mort, la Dodeuil, la Moguette, la Modelaine, Tino Rossi, Grand Corps Marmelade, Eddie Mitchèvre, Sean Connard et Bob Dylan. J'ai scandé chaque prénom. Chaque prénom, en le frappant en morse sur le bois de la table. Vous avez compris le système ?
Oui, j'essaie de suivre, oui.
Laurent, il est déjà là, paraît-il. Bonjour, Laurent.
Bonjour les amis.
Écoutez, c'est tellement exceptionnel. Franchement, c'est
vous m'entendez bien
sûr qu'on vous entend. Mais c'est, d'abord, merci. Parce que les auditeurs vont pouvoir parler avec vous. Donc, on va vraiment se taire. Et ça va être dur pour nous. Mais en même temps, c'est les auditeurs qui doivent vous poser des questions et dialoguer avec vous. C'est leur plaisir. C'est leur 1er avril.
Ah, merci.
Mais c'est vrai que.
Je suis auditeur d'ailleurs, avant tout, de votre émission.
J'ai bien compris. Mais le duo. Et c'est vrai que je disais, il y a des imitations qui font jubiler, vous voyez, qui provoquent un rire. Vous avez vu le rire qu'on a, qui est un rire,
tout
presque fou rire immédiat.
Et puis c'est des souvenirs aussi avec Jade, depuis toutes ces années. Et puis depuis que je suis à RTL, ça fait quelques années. Mais c'est vrai qu'on a eu toujours aussi cette liberté et on s'est marré, quoi. On se marre et on se marre encore parce qu'on a de la matière.
Oui,
bon, on va vous retrouver dans 10 minutes. Le Diode, on ne le voit plus, le Diode, il n'est plus là.
Écoutez, Alexandre,
je ne suis plus à Saint-Dié des Vosges. Maintenant, je vais à l'Institut du Monde Arabe. Je vous le rappelle, mon cher Pascal. Quel bel homme, ce Pascal Praud.
Bon, écoutez, à tout de suite. On finit
tout de suite.
Avec
tout de suite.
Mbappé, que vous n'imitez pas encore.
Non, pas encore. Pas encore Mbappé, oui.
Et Jackie est là parce que les états d'âme d'Mbappé, qui a 23 ans et pourtant qui traverse la vie, je le disais tout à l'heure, en première classe, c'est vrai que ces états d'âme à Philippe Sainte-Fourche peuvent un peu agacer peut-être. Bonjour Jackie.
Oui, bonjour Pascal. Oui, ça peut agacer. En même temps, il faut simplement comprendre que le joueur est relativement jeune. Il réagit comme ça. Mais avec Mbappé, je me méfie beaucoup parce que c'est quelqu'un de très intelligent qui est d'une maturité assez déconcertante depuis 6 ans maintenant qu'il est au plus haut niveau en Ligue 1. Et dans la communication, il est plutôt très adroit. Donc, je me dis effectivement, il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il cherche derrière. Et là où je pense qu'il est intelligent, c'est que en disant ça, il va peut-être calmer certains journalistes qui ont effectivement tendance à l'attaquer dès qu'il va faire un match moyen. Clairement, là, les 3 matchs qu'il vient de faire avec l'équipe de France, il n'a pas été bon. Mais l'équipe de France n'a pas été bonne. Moi, clairement, je me suis ennuyé à regarder ces matchs, mais je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est une histoire d'animation offensive qui a été face à des adversaires bloc bas très regroupés. Effectivement, ce type de joueur, c'est pas là où il est le plus à son avantage. Par contre, il avait fait un très bon match face au Barça. Quand il en met 3, il fait un triplé. Et là, effectivement, on voit la pleine mesure de ce que peut donner Mbappé.
Mais vous n'êtes pas agacé, en fait, par ces mesures.
Alors, agacé par les journalistes qui le critiquent et pas agacé par Mbappé, parce que effectivement il est comme ça, et je pense qu'effectivement, quant à son avenir, quand il parle de son avenir, qu'il va y réfléchir, l'avenir il est tout tracé pour Mbappé. Ce sera effectivement un grand club européen qui gagnera la Ligue des Champions, qui lui amènera le Ballon d'Or. Donc pour ça, il faut, ou il gagne la Ligue des Champions avec le PSG cette année et il peut rester, mais il la gagne pas, c'est sûr qu'il part. Et moi je lui conseille de partir et d'aller voir une autre équipe qui a un autre projet de jeu, avec d'autres ambitions et effectivement peut-être d'autres entraîneurs qui le mettront davantage en valeur et face à des adversaires
merci, Jackie.
Différemment. Voilà.
Merci beaucoup Jackie. Arnould est là, Arnould qui le comprend. Je pensais que ça vous agacerait Mbappé, mais non, finalement vous le comprenez. Bonjour Arnould.
Oui, bonjour Pascal, et j'en profite pour dire à Laurent Gérard et à Jade qu'ils égayent tous les deux les matins, nos matinées, parce qu'on rigole vraiment beaucoup, beaucoup avec eux.
Vous l'écoutez en direct ou vous faites parfois des podcasts quand vous avez manqué la séquence?
Non, je l'écoute tout le temps en direct. Et moi, il y a une saga qui me manque, c'est la saga François Mitterrand avec le maréchal.
Le maréchal qui lui parle du paradis.
Mais voilà, c'est vrai.
On va noter tout ça aujourd'hui.
Non mais c'est vrai, le maréchal moustache.
Oui, exactement.
Mais oui, c'est des personnages, mais je suis d'accord avec vous.
Exactement.
Je suis d'accord avec vous. Bon, Arnould, Mbappé.
Oui, Mbappé, non, mais je comprends un peu sa lassitude. Et après, comme disait l'auditeur précédent, je suis pas dupe non plus. C'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un qui maîtrise bien sa communication. Donc, qu'il soit un petit peu agacé par les journalistes, par les commentaires, parce que c'est vrai que ça fait quelques matchs en équipe de France qu'il n'est pas à son niveau. Bon, ça reste quand même un excellent, un formidable joueur. Et malheureusement, s'il part du championnat de France, ça sera une grosse perte pour le championnat de France. Mais je pense qu'il prépare un peu. C'est déjà son départ, qu'il sensibilise déjà un petit peu l'opinion publique, les journalistes, comme quoi s'il part, ça ne sera pas uniquement pour des raisons d'argent ou pour des raisons de ballon d'or, mais voilà, il essaye un petit peu de préparer le terrain. En tout cas,
si merci Arnould. On va être ensemble jusqu'à 14h30 avec Laurent Gérard. Alors, Laurent Gérard, il a un défaut ou un paramètre.
Oui.
C'est qu'il ne connaît pas du tout le football, ce qui est assez rare pour un garçon de sa génération.
Non, c'est vrai. Non.
Laurent, en plus, vous êtes né dans un secteur où il y avait quand même Saint-Étienne qui était à deux pas de chez vous. Et vraiment, vous êtes passé à côté du football.
Moi ? Oui. Ça m'a jamais passionné. Je me souviens de la finale Saint-Étienne. Et mon père m'avait autorisé à regarder la télévision exceptionnellement, et j'y comprenais rien. C'était en noir et blanc, donc je savais pas qui jouait contre qui. Et il m'a dit bon, va te coucher. De toute façon, j'y comprenais rien.
Bon, vous imitez.
C'est vrai que oui.
En footballeur, vous imitez Ribéry.
Oh ouais.
Ah ouais. Schlurp. Ça fait longtemps.
Je ne sais pas si vous avez imité Jacquet à un moment.
C'est-à-dire que comme je ne regarde pas trop, c'est vrai que je n'étais pas très très inspiré. Mmh. En revanche, on s'est beaucoup moqué même de la Coupe du Monde à une époque où c'était très populaire. Mmh.
Raymond Domenech.
Ça va peut-être rappeler de mauvais souvenirs à certains, mais l'histoire du bus, par exemple, on en avait bien rigolé, oui.
Bon, bah écoutez, les auditeurs sont en masse, je vois. Il y a déjà Alain, François, Jacques qui vont être là et qui vont pouvoir dialoguer avec vous et avec Jade, bien sûr. Et je pense que c'est un joli cadeau que vous leur faites.
C'est un plaisir. Hein,
ça nous arrive pas souvent de leur parler bien.
Les gens, ils vous adorent. Oui. Regardez les gens.
Et avec notre voix.
Arnould,
à tout de suite.
Il y a deux secondes, voilà, tous les matins, vous les égayez, le nombre de gens qui s'envoient des podcasts. T'as écouté Gérard, t'as écouté Jade ce matin, c'était drôle, voilà.
C'est bon de le savoir d'ailleurs, c'est bon de savoir qu'on peut faire marrer parfois dans une période aussi perturbée, aussi sombre, mais voilà.
À tout de suite, Laurent.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Et en responsabilité, on va écouter Hortense Crépin pour le Flash.
L'Assemblée nationale approuve les nouvelles restrictions annoncées hier par Emmanuel Macron. Mais la quasi-totalité de l'opposition a boycotté le scrutin et dénonce une mascarade. Un scénario similaire pourrait se jouer cet après-midi au Sénat. Lors de son discours devant les députés, Jean Castex a notamment expliqué que la consommation d'alcool sur la voie publique allait être interdite ces prochaines semaines. Et cela pour freiner la propagation du virus. Hier, 30,8 millions de personnes ont suivi l'allocution du président. Dès samedi, tous les départements en métropole seront soumis au même régime de mesures de freinage renforcé. Une tolérance ce week-end avec des déplacements interrégions autorisés. Hier, la SNCF a vendu 130 000 voyages, dont la moitié pour ce week-end de Pâques, soit une hausse de 25% des ventes par rapport à la veille, mais aussi 40 000 annulations. Dans le même temps, le pic épidémique pourrait être atteint d'ici 7 à 10 jours et le pic de réanimation d'ici la fin avril. Le chef de l'État a parlé de renforts supplémentaires pour arriver à plus de 10 000 lits dans les services de réanimation. Autre mesure, celle de la fermeture pour 3 semaines des écoles avec 15 jours de congés unifiés pour tout le pays. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, parle ce matin sur RTL d'une solution d'équilibre et explique que l'objectif reste de maintenir le grand oral et l'épreuve de philo du bac cette année. Dans l'enseignement supérieur, les concours prévus ces 4 prochaines semaines auront bien lieu. En football, l'UEFA envisage d'autoriser plus de 23 joueurs par sélection lors de l'Euro cet été. Et cela après les demandes de plusieurs sélections face aux risques liés à la pandémie, mais aucune décision n'est prise pour l'instant. Et puis, les critiques, ça fatigue, déclaration de Kylian Mbappé. Dans un entretien avec Philippe Sanfourche pour RTL et M6, l'attaquant parisien revient sur les commentaires dont il est l'objet. Le document est écouté en intégralité sur rtl.fr. La météo cet après-midi avec beaucoup de soleil, un peu de vent d'automne et un ciel voilé dans le sud-ouest et plus couvert sur les Pyrénées. Les températures avec des maximales encore au-dessus des normales de saison. 26 à Paris, 24 à La Rochelle et 19 à Nice. Les courses étaient à Chantilly il y a quelques minutes. L'arrivée provisoire, 10, 8, 16, 5 et 4. 14h03 sur RTL et le retour des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
Merci Hortense Crépin.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Spécial auditeurs ont la parole avec Laurent Gérard et Jade. Mais avant cela, il semblerait que le Premier ministre soit avec nous et souhaite intervenir.
Ah oui, c'est lui. Oui.
Je suis prêt à répondre à vos questions en responsabilité.
Alain est là. Alain est là, il est chauffeur.
Bonjour Alain.
Et il va dialoguer avec vous. Bonjour, bonjour Alain.
Vous voulez peut-être parler à Max Meynier, non?
Bonjour Jade. Ah oui. Bonjour Pascal, bonjour Jade et bonjour Laurent.
Bonjour.
Je suis conducteur routier, alors autant vous dire que, évidemment, fidèle auditeur depuis tellement d'années, mais c'est toujours un moment de plaisir quand je vous entends arriver tous les deux, parce que j'aime tous les gens que vous caricaturez, j'aime beaucoup Lucini avec la Jade, j'aime beaucoup. J'ai une affection particulière pour Monsieur Hollande. Et je souhaitais, et j'aurais, si je l'avais en face de moi, je lui demanderais quelle est sa solution contre le Covid. Et voilà, mais parce que je suis convaincu, vous avez une petite idée là-dessus, Monsieur le Président. Mais,
il faut mettre un casque, il faut se protéger, voilà. Il faut mettre un casque.
J'adore.
Ça me touche d'autant plus que je descends d'une famille de transporteurs et que je sais que la radio, en tout cas, a toujours accompagné les routiers sur cette antenne avec Max Meynier, et que d'être dans le quotidien de cette profession qui n'est pas facile, et je sais de quoi je parle, parce que vraiment je descends d'une famille de transporteurs qui est je les voyais partir le matin, parfois je partais aussi avec eux dans les camions, et la radio c'est un média qu'on emporte avec soi, et c'est très important.
Absolument, et c'est le lien avec le reste du monde, avec le téléphone aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas, et je suis certain que tous les collègues qui vous écoutent à cet instant apprécieront vos propos, Monsieur Gérard.
Voilà, merci, moi, c'est adorable.
C'est gentil.
J'apprécie vraiment ce que vous faites tous les deux chaque matin. C'est le moment de rigolade et je n'en rajoute pas.
Mais pour nous aussi, vous savez.
On se lève, on est content aussi.
Pas plus tard que lundi, on a piqué un fou rire dans le studio pour un sketch qui passera mardi prochain. Et voilà, une idée qu'on a eue en commun avec les auteurs, qu'on salue d'ailleurs.
Qu'on embrasse et qu'on remercie.
Et c'est vrai qu'on a de la chance d'aller au boulot en se disant on va rigoler.
Bah oui, bah écoutez, c'est vous faites rigoler tellement de gens, et surtout n'arrêtez jamais. Et puis
merci.
Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, parce que c'est le moment de rigolade et ça fait du bien quand on est seul dans sa cabine, vous le savez.
Bon, ça me touche beaucoup, d'autant plus que je vous le disais, je connais la profession.
Oui. Voilà, et bien c'est très.
Merci,
très gentil,
merci. Bon courage à vous.
Alors, si vous le voulez bien, on va faire une première pub.
Déjà la pub, il faut bien vivre, il faut bien vivre au 3210. Envoyez la pub.
Au revoir.
Au revoir, merci infiniment.
Avec plaisir.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est le 1er avril et Laurent Gérard et Jade nous font vraiment l'amitié
d'être. Et c'est le vrai Pascal Pro.
Et oui, il est là.
Ça n'est pas un poisson.
Et Jacques, qui est télévendeur dans le Jura.
Décidément.
Jacques.
Ça reste régional.
Exactement, Jacques va pouvoir dialoguer avec Laurent. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, Jacques. Bonjour Laurent, bonjour Jeanne.
Bonjour,
c'est le plus beau 1er avril de ma vie. Je suis content d'avoir Laurent au téléphone.
Merci.
Je l'adore depuis ses débuts, j'ai 66 ans, et je le suis depuis Jacques Martin, et j'ai suivi toute sa carrière, et c'est un mec extraordinaire.
Oh merci, vous allez me faire rougir, mais ça se voit pas à la radio.
Je vous ai vu en vrai à Lons-le-Saunier, vous êtes autant sympathique qu'on peut l'imaginer.
J'ai des origines jurassiennes par ma maman.
Oui, je sais.
Dis-moi, c'est ta famille qui appelle ou
quoi ? Oui, c'est vrai. En fait, oui, c'est ça. Salut, cousin.
Je vais vous voir à chaque fois que vous venez dans le Jura ou à Bourg-en-Bresse. Et vous me faites... Vous êtes les deux personnes, et c'est pas sympa, qui me faites pleurer tous les jours.
Ah bah, pleurer de rire, vous voulez dire.
De rire. Mais à l'époque, maintenant je suis au bureau, mais avant j'étais en voiture, et quand parfois j'étais avec mon boss, Stéphane, il nous est arrivé de vous écouter et d'arrêter la voiture, on pleurait. Et j'ai dit, on va avoir un accident un jour, à cause de l'engrais, donc on s'arrêtait, on écoutait pendant un quart d'heure.
C'est bien, vous êtes prudent.
Et moi, c'est mon quart d'heure de bonheur tous les jours. Je n'en loue pas une. Vous me faites marrer et continuez. Vous êtes une superstar pour moi. Vous êtes
merci.
Un grand imitateur,
merci
un grand chanteur et en plus un grand acteur parce que j'ai regardé tous vos films. Vous n'avez pas fait beaucoup, mais vous avez toujours été très très bon dans vos films et vous devriez aller plus souvent au cinéma.
Alors il y en a un qui arrive là.
Oui, il y en a un qui arrive, c'est vrai.
Et bien super.
Ben, merci.
Jacques, vous avez peut-être une imitation que vous aimez ?
Oui, mais j'aimerais savoir ce que pense Lucchini des états d'âme de Mbappé, le pauvre Mbappé.
Alors, c'est pas prévu, mais c'est énorme. Mbappé, c'est énorme. Pascal Pro, c'est énorme. On vit dans une société. Heureusement que les auditeurs ont la parole, parce que parfois, on la donne à des gens qui n'ont rien à dire.
Je crois que vous aimez bien Jacques également quand Laurent imite Jean-Marie Le Pen.
Alors là, Jean-Marie Le Pen, c'est à mourir de rire.
Si vous je vous ferai l'imitation, je vous la fais à l'œil. Voyez.
Ah, c'est sympa.
Bon, on a plein de gens qui nous écoutent. On a Laurent Boyer, que je salue. Lolo Boyer, qui dit génial. Merci. Lolo et Jade, kiss à tous. Il y a également, alors vous avez plein d'amis. André Valigny, qui dit dites à mon ami Laurent que je ne conçois plus une matinée qui commencerait sans lui et Jade. Donc plein de gens nous écoutent. Tous nos amis sont là.
Tous nos amis sont là, comme vous disiez. Mais vous m'avez fait plaisir, Pascal, genre, qu'on m'avait dit qu'effectivement, je faisais Briali pour le faire revivre. C'est vrai que tous mes amis sont là. Merveilleuse Jeanne, tellement merveilleuse. Ça, c'est pour vous.
Mais j'adore Briali. Alors, Pierre est là. Pierre qui habite dans l'Aveyron. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, Pierre.
Mais où dans l'Aveyron? Parce que ça, c'est le gars qui a fait des tournées depuis 30 ans. Mais vous venez d'où?
Quelle est la préfecture de l'Aveyron, monsieur Laurent Gérard?
C'est Rodez, non?
Bravo. Et comment on appelle les habitants de Rodez?
Les Ruthénois.
Oh là là, il est bon. Hein.
Ah oui, il est bon, faut pas jouer.
Ah, mais il est bon, écoutez, c'est fabuleux. Parce que tout le monde se fait avoir. D'habitude, les habitants de Rodez, c'est les Rodésiens. Non, pas du tout, c'est les Ruthénois.
Ça vient des Ruthènes, exactement.
Mm. Bravo. Non, je suis ravi de vous entendre. Je voulais dire que je vous aime beaucoup. Et je trouve, en fait, c'est ce que je disais, je trouve que évidemment, vous imitez juste, mais par la voix, évidemment, c'est génial. Mais en plus, c'est-à-dire que vous cernez bien les personnages. On a l'impression que vous leur faites ressortir leurs petits défauts. Voilà. Et c'est vrai, quand je vous entends imiter Patrick Bruel, Gérard Depardieu, Philippe Devilliers, j'adore.
Vous savez, on se glisse un peu, on va pas faire de la psychanalyse de Belle, mais on se glisse un peu dans la psychologie des personnages. On ne peut pas faire dire à quelqu'un, il y a toute la musicalité de la voix, la prosodie, il y a le vocabulaire. Une imitation, c'est pas que reproduire une voix. Vous avez raison là-dessus. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de pouvoir savoir ce que tel personnage va pouvoir dire. Et on travaille aussi comme ça avec les auteurs, parce qu'il faut, qui sont des, je le redis, des gens qui sont des tailleurs sur mesure. Hein. Tous ceux avec qui j'ai travaillé, quand on dit tailler un costard, on le taille, quoi.
Ils ont l'essence même du personnage. Bien le dire, quoi. Pardon.
Pardon.
Non, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Je disais qu'effectivement, ce que vous leur faites dire, mais évidemment, ils pourraient le dire, quoi. Voilà, c'est tellement juste. Voilà, donc
c'est un peu
bonheur de vous entendre.
Dans ce sens-là, ça me fait plaisir, parce que c'est un peu dans ce sens-là qu'on travaille, je le dis encore en rigolant, mais il y a un petit peu de travail derrière. Mais vous savez aussi, je peux vous dire, et Pascal le sait, c'est assez jouissif quand il y a par exemple, l'intervention d'Emmanuel Macron hier, et qu'on s'est appelé avec les auteurs, et on a dit, de toute façon, il va fermer les écoles. C'est embêtant, parce qu'avec Brigitte, ils se sont connus à l'école. Voilà, c'est assez jouissif de pouvoir dire ça le lendemain matin, alors qu'il y a, entendu combien de millions qui ont 30 millions qui ont regardé le président. Donc j'ai dit, il faut qu'on le fasse demain matin. Donc on a un petit peu mais il fallait qu'on réagisse là-dessus. C'est aussi ce qui est intéressant dans notre métier, qui n'est pas un métier de journaliste, mais on se marre aussi là-dessus. On se marre sur l'actualité.
Il y a un côté,
comme disait Jacques Martin, vous savez, on chansonne sur l'actualité.
Oui, mais il y a un côté journaliste. Et vous parliez de la psychologie, il y a un côté caricatural où vous arrivez à cerner parfois une psychologie.
Oui, c'est l'essence des personnages.
Voilà, ça va. C'est beaucoup plus que de l'imitation. Mm. C'est supérieur à cela. C'est une vérité quasiment psychologique qui est parfois donnée.
Ben merci beaucoup.
Et on dit qu'on rit des choses qu'on connaît le mieux. Mm. C'est pour ça que ça nous fait hurler de rire, parce qu'on les connaît au fond.
Oui, absolument.
Tous ces personnages. Puis,
c'est un petit peu un révélateur. C'est-à-dire que trouver un tic de langage d'une personnalité, trouver un petit peu ses failles ou ses tics, c'est aussi intéressant.
Depardieu, c'est formidable. Par exemple, vous êtes le seul à imiter Depardieu.
Oh non, il y en a qui l'ont fait. Je pense que Patrick Sébastien, il a dû le faire. C'est pas. Mais
aussi juste, c'est une vérité.
Vous savez, Michel Serrault, que j'ai eu la chance de rencontrer, il m'avait dit, tu m'imites. Alors j'avais dit, oui, je vous imite. Mais il me dit, j'espère que tu m'imites dans le Garde à vue et dans le Docteur Petiot et pas dans la Cage aux Folles. Et c'est vrai que je l'imitais plus dans Garde à vue et les personnages ont plusieurs aspérités. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé à Paris, on me disait, mais Johnny, il parle pas comme ça. Johnny, il fait à que. Je dis, Johnny, j'ai jamais fait à que, à part dans une chanson qui était, attends un peu, à que je travaille. Mais, je dis, Johnny, c'est quelqu'un qui parle très lentement, c'est quelqu'un qui est une érudition, mais qui, comme disait Luchini, puisqu'un auditeur parlait de Luchini, c'est quelqu'un qui réinvente des évidences. Il est comme Thomas Bernhard. Mais il avait sa logique, Johnny. Donc c'était quelqu'un de très très intéressant à imiter, et beaucoup plus subtil qu'on aurait pu le dire. C'est pour ça qu'on s'est aussi bien entendu, parce que il s'est rendu compte que je me moquais pas de lui pour me moquer de lui. C'était j'avais beaucoup de respect, et j'ai parfois beaucoup de respect, parfois j'en ai moins.
Sur certains.
Bon, une pause encore et on continue évidemment. On sera avec François. L'imitation de Sarkozy, c'est celle qu'il préfère ou une de celles qu'il préfère. Quelle indignité.
Quelle indignité.
À tout de suite.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est le 1er avril, Laurent Gérard et Jade dialogue avec les auditeurs. Nous sommes avec François qui habite Orbec. Bonjour François.
Oui, bonjour. Bonjour Jade, bonjour Laurent et bonjour François. Pascal.
Bonjour. Bonjour.
Eh bien, quel plaisir de vous avoir. Hein. Tout à l'heure, j'ai écouté Jade qui a dit que vous cerniez l'essence des personnages. Eh bien, moi, quand je connais le prix du carburant, je me dis que c'est plus un talent qu'une richesse.
Vous êtes auteur, non ?
Comment ?
Vous êtes auteur, vous-même ?
Non, je suis pas auteur, je suis plutôt en dessous. Moi, je suis pas en hauteur. Je suis pas en hauteur, moi.
Si, c'est
mais,
ça.
Je voulais surtout vous dire que, eh bien, Jade et puis Laurent Gérard, eh bien, c'est nitro et glycérine. Parce que tous les deux, eh bien, c'est une explosion de rire quand on vous entend le matin. Et si on sépare l'un de l'autre, je pense que ça serait séparer la nitro de la glycérine.
Ouais, et exactement. On perdrait.
Moi, j'en ai pas envie. Hein.
Oui, mais alors, ce que dit François est très important parce que il y a Jade, bien sûr, mais il y a Yves Calvi.
Ah oui.
Et c'est très important.
C'est tellement bien nous accueillir.
Exactement, oui. Parce que il y a toujours une fragilité, j'imagine, quand tu fais rire les gens. Si tu es en face de quelqu'un qui ne rit pas du tout, c'est pas rigolo. Bien donc, oui. Yves, il participe à ce moment par son rire, par sa bienveillance, oui. par son humeur.
Et nous avons à nouveau, nous avons Cyril Lignat qui se joint à notre petite équipe tous les matins.
Oui, mais oui, c'est très agréable. Je le redis, c'est très agréable d'aller avec cette équipe et d'avoir effectivement Yves qui, après une tranche d'infos qui parfois peut être un peu lourde, surtout en ces temps difficiles, comme disait Léo Ferré, mais c'est vrai d'avoir cette respiration. On sent que Yves a envie de s'amuser avec nous et ça, c'est la meilleure récompense.
François, vous avez une question peut-être pour l'ancien président de la République ?
Oui, j'ai une question pour l'ancien président de la République. Parce que devant la baisse des naissances en France, Monsieur Sarkozy, est-ce qu'il ne serait pas bon d'avoir une loi qui impose à chaque Français de faire un dépôt de semences en mairie ?
Déjà, il va falloir répondre à votre copain qui vient de vous appeler sur le téléphone, parce qu'il sait que vous êtes sur RTL. Voilà.
Bah, j'ai mon petit quart d'heure, j'ai un auditeur.
C'est bien. Mais vous savez, avoir des perspectives comme ça, en cette période où tout le monde essaye de me dénigrer avec des morceaux de clafoutis, de dénigrement, voilà, ben ça fait plaisir de vous entendre.
Je me souviens de Nicolas Sarkozy dans le studio de la rue Bayard en 2012, pris de convulsions, de rire, parce que vous l'imitiez devant lui.
Oui, absolument. Bah, vous savez, c'est des moments. J'ai vécu pas mal de campagnes électorales, comme vous, Pascal. Mais c'est vrai que être dans une radio, je le redis, avec les libertés qu'on peut avoir. On n'a pas fait une charge chaque fois qu'il y en avait un qui était là. Je sais que François Hollande a demandé à Jade de toucher ses cheveux pour montrer qu'ils n'étaient pas teints. Quand même des moments où on se dit, c'est quand même le président de la République. On avait vu à l'époque Jacques Chirac qui embrassait tout le monde et toutes les journées. Ah, moi je fais la baise. Donc c'est vrai que ils étaient quand même en campagne électorale. Donc il y avait nous, on était là avec nos bêtises à délivrer. Alors il y a une petite tension quand même. Il y a un petit,
on a un petit trac quand ils sont là.
Mais je le redis, c'est assez jouissif de pouvoir faire notre métier dans ces conditions-là.
Je tiens à dire que François Hollande s'est assis à côté de moi et m'a dit « Vous allez encore vous moquer de mes cheveux ?» Je lui ai dit « Ce n'est pas notre genre. » Il m'a dit « Vous pouvez m'arracher un cheveu et le faire analyser, je ne suis pas teint. » J'ai failli lui dire « Chiche » et je n'ai pas osé.
Alors là, comme évidemment on est à la radio, vous ne pouvez pas imiter Laurent François Hollande tel que vous le faites sur scène, mais c'est un numéro d'acrobatie, qui est exceptionnel. C'est
en
exceptionnel.
Silence.
En silence. Mais alors là, vous êtes François Hollande. C'est ça qui est incroyable.
Même le matin, il y a la voix, avant que la voix arrive, il y a sur son visage le personnage qui apparaît.
C'est indissociable, absolument. Oui. Mais vous savez, l'histoire de François Hollande, c'était quand même un soir d'élection électorale à RTL. Et j'ai vu quand Ségolène lui a demandé, Trierweiler, pardon, lui a demandé, embrasse-moi sur la bouche, et qu'il est arrivé, j'ai dit, il a le cul en arrière, la bedaine en avant, il a les yeux ahuris, il fait coucou, ça y est, je l'ai chopé. Et c'est parti. Par exemple, pour les spectacles, je l'ai fait une minute, et on est arrivé jusqu'à 7 à 8 minutes sans rien dire. Ouais. Mais bon, j'aime bien les films muets, donc ça a dû m'aider.
Avec la canne à pêche. Alain est là. Exactement. Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Et merci d'être
avec nous.
Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Oui, je voudrais vous dire, monsieur Laurent Gérard, je vous adore, et je suis chauffeur routier.
Décidément.
Je ne loupe pas votre émission, vous et Jade, et je rigole tout seul dans mon camion, c'est incroyable.
Ça me fait plaisir.
Vous n'êtes plus tout seul, justement.
Même quand on m'appelle, je ne réponds même pas, je vous dis franchement.
C'est gentil. Merci. Alors, merci beaucoup.
Non, là-dessus, je vais avoir 60 ans, je vous ai toujours estimé. J'ai même été vous voir à Caen en spectacle.
Ah, Caen, Calvados. Donc, c'est parce que on me demande beaucoup les régions. Donc,
voilà. Oui, et vous aimez John Rambo, Alain, je crois.
Comment ?
Vous aimez John Rambo.
Ouais, John Rambo, et puis et en particulier, en plus, Yves Montand. Notre regretté.
Avec le papé, oui.
Le papé, ah, Rambo, oui, c'est bien.
Aussi, j'ai conduit des camions au Vietnam, vous savez.
Merci Alain, parce que je le redis, parce qu'on a deux auditeurs qui sont sur les routes. Moi, les routes, ça fait partie de ma vie, comme je le disais depuis bientôt 30 ans. Je sais ce que c'est, et je me demande si dans la filiation, comme j'ai une famille de transporteurs, si je n'aime pas être sur les routes aussi à cause de ça ou grâce à ça, et pouvoir vous apporter un peu de baume au cœur le matin, parce que ça ne doit pas être facile de partir sur les routes comme ça, ça fait plaisir. On est très heureux avec ma camarade Jade.
Oui, c'est vrai.
Je vous remercie vraiment grandement, tous les deux, parce que vous voyez, il est déjà 14h27 quasiment, cette demi-heure est passée très très vite, donc merci à Laurent, merci aux auditeurs.
Merci Pascal.
C'est vous, parce que les gens vous adorent, et on le voit, ils ont envie de vous parler, de discuter avec vous, et on aurait pu on pourrait faire deux heures, franchement.
La prochaine fois, on
revient.
Vraiment, c'est un plaisir, vraiment merci, vraiment merci.
Pour la fête des mères, la prochaine fois, voilà, je sais pourquoi, qu'on ait un peu de public féminin. On vous apprécie.
Oui, non. C'est vrai que les femmes n'ont pas appelé là.
Ouais.
C'était un hasard.
Merci
Monsieur Gérard.
Merci infiniment Pascal. Je ne fais que les émissions que j'écoute.
Exactement. On salue également notre ami qui est
Monsieur Laverdin.
Monsieur Laverdin.
Éric Laverdin qui réalise l'émission. Et puis mes auteurs Pascal Fioretto, Jérôme de Verdière et Stéphane Rose, avec qui nous rions beaucoup.
Exactement, ils sont formidables. Merci à tous.
Merci.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.